Nicolas Bocquet, vous êtes actuellement conseiller culturel de l'ambassade de France près le Saint-Siège, ici à Rome. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et vous êtes aussi agrégé d'histoire. Comment est-ce qu'on arrive de l'histoire à Rome ?
Par une série de hasards, mais qui je pense, n'en sont pas, et par une volonté de ma part, à mon retour d'Harvard, où j'ai passé 3 ans à enseigner et faire de la recherche, volonté de m'orienter aussi vers une expérience plus de responsabilité, d'action. Et donc, je suis rentré à Sciences Po. Je n'avais pas fait Sciences Po à l'origine. Je suis venu me faire ma thèse à Sciences Po. Et au retour des États-Unis, je suis entré dans l'administration à Sciences Po, dans la direction, dans l'équipe de Richard Descoings, pour m'occuper des premières années. Ça a été pour moi une expérience extrêmement riche, très pleine, très exigeante, où j'ai beaucoup appris. Et ensuite, c'est là que j'ai rencontré Jean-Luc Poutier, mon prédécesseur comme conseiller culturel de l'ambassade et directeur du Centre Saint-Louis. Et c'est ce qui m'a donné l'idée et l'envie de poser ma candidature à sa succession.
Alors quand on vous écoute, on entend Harvard, la rue d'Ulm, la thèse qui va bientôt être soutenue, la thèse d'histoire à Sciences Po, et on entend une volonté aussi d'être au contact.
C'est ça, j'adore la recherche, j'adore l'enseignement, et en même temps, ça ne me suffisait pas complètement. Et en même temps, ce dont je m'aperçois maintenant que j'exerce des responsabilités, que je dois gérer des équipes, mener à bien des projets, finalement, je m'aperçois que c'est à peu près les mêmes qualités qu'il faut mettre en œuvre quand on a des étudiants devant soi ou bien quand on a une équipe qu'on doit mener quelque part, les mêmes qualités d'empathie, d'énergie à communiquer. Je dirais que pour moi, tous ces aspects-là, recherche, enseignement, action, sont très riches et j'ai besoin des trois, ce qui n'est pas forcément évident dans les carrières classiques, mais je me laisse jusqu'ici un peu porté sans projet de carrière, mais finalement en saisissant les opportunités, et jusqu'ici je m'en suis très bien porté.
Recherche, enseignement, action, au cœur de ces trois pôles, il y a quand même quelque chose qui revient chez vous, qui est la Hongrie. Pourquoi ? Vous avez écrit un livre qui s'appelle Budapest 1956. Qu'est-ce que la Hongrie vient faire dans ce parcours ?
La Hongrie, c'est un peu un hasard. J'y suis parti dans mes premières années à l'école normale supérieure pour, au départ, apprendre la langue et m'intéresser à l'Empire austro-hongrois de manière assez classique. Et j'ai découvert à ce moment-là, c'était à la fin des années 90, dans un moment encore extrêmement enthousiasmant de ces nouvelles démocraties de l'Est qui venaient de se libérer du joug communiste. Donc un moment assez excitant, des très belles rencontres et aussi un moment, pour un jeune historien, absolument extraordinaire, qui est un moment où les archives s'ouvrent, les mémoires se transforment, se libèrent. On sent que, je dirais, pour l'historien que j'étais, qui doutait à ce moment-là de l'utilité de son travail, il y avait une opportunité extraordinaire, le sentiment au contraire d'une urgence à aller ouvrir les cartons qui n'étaient pas ouverts et qui maintenant étaient disponibles, fouiller dans les recoins de l'histoire et de la mémoire qui pouvaient être porteurs de tabous, de difficultés, et qu'il y avait là quelque chose d'important à faire avec quelqu'un qui avait un regard extérieur pour essayer de comprendre les uns et les autres et d'essayer de reconstituer des choses qui pouvaient aider ce pays à se tourner vers l'avenir.
Mais il y a eu un coup de foudre au départ pour la Hongrie.
C'est une série de hasards et finalement quelque chose qui est resté important pour moi. J'ai appris la langue, j'ai beaucoup d'amis là-bas et le parrain d'ailleurs de notre dernière petite fille est hongrois. Je dirais que c'est plus une série de hasards qui m'ont conduit là-bas et qui m'ont conduit à ce travail sur la Hongrie qui maintenant est une partie importante de moi parce que j'ai passé de longues années. La thèse donc porte sur l'Église catholique en Hongrie communiste, donc un sujet qui, comme je le disais, est porteur de tabous, de choses difficiles aujourd'hui à dire, à comprendre. C'est un travail d'historien qui est aussi, pour moi, un travail, presque un travail spirituel, ou en tout cas un travail avec une forte dimension spirituelle. C'est ça qui m'a, je dirais, qui m'a donné l'énergie d'aller de l'avant pour porter ce long travail, malgré les difficultés, les naissances, les voyages, les déménagements, et de le porter à son terme.
Comment est-ce qu'on fait des liens justement entre la Hongrie communiste, l'Église catholique, la thèse de doctorat et puis maintenant la patte humaine ici à Rome où il va falloir faire des projets? Il y a une espèce de puzzle ou de faisceau. Et comment est-ce que vous arrivez, Nicolas Bocquet, à trouver le fil qui vous permet d'aller de l'un à l'autre en suivant une direction?
Oui, le fil, il n'est pas forcément facile à trouver au quotidien parce que ce sont des activités qui requièrent des formes diverses d'engagement, de réflexion. Le fil, il est celui, je dirais, d'une certaine exigence de la pensée. C'est-à-dire qu'on soit en train de faire un travail de recherche, qu'on soit en train d'enseigner à des jeunes générations, ou qu'on soit à la tête d'une institution culturelle. La vraie exigence, c'est celle de la pensée, c'est celle de la rigueur, c'est celle d'aller au bout des choses, c'est celle de mettre en avant cette exigence, comme je le disais, d'empathie, de compréhension du point de vue de chacun, d'aller comprendre un peu ce que les gens attendent, ce que les gens ont à l'esprit, ce dont les gens ont besoin, ce dont ils ont envie. Ça, c'est vrai dans un travail d'historien, parce que la manière dont je fais ce travail est d'aller rechercher les représentations des acteurs, leurs émotions, leurs convictions, que ce soit du côté catholique, du côté communiste, ou du côté de ceux qui se situent dans un entre-deux pas toujours très clair. Puis j'ai l'impression que c'est aussi ce que je fais maintenant à la tête du Centre Saint-Louis, d'aller essayer de rencontrer les uns et les autres, de savoir en quoi le centre pourrait être important dans leur vie. C'est l'objectif que j'ai fixé à ma première réunion avec mes équipes, c'est de... Moi qui suis habitué, enfin moi qui ayant travaillé à Sciences Po, n'ai pas eu à me poser cette question. Quand on travaille dans une université, on se lève tous les matins en sachant très bien que tout ce qu'on fait est d'une importance cruciale pour des gens qui, dans une université, trouvent leur formation intellectuelle, la manière dont ils vont apprendre à penser, le travail qu'ils pourront faire pour leur carrière, les rencontres qu'ils vont y faire, la manière dont ils vont construire leur vie d'homme. Voilà, à la tête d'un centre culturel, je trouve ça moins évident et c'est l'exigence que j'ai demandé de porter, c'est-à-dire que ce centre-là ait une importance dans la vie des gens, que son existence fasse une vraie différence dans les rencontres que les gens vont faire, dans les lectures qu'ils vont faire, dans la richesse de leur vie intellectuelle et spirituelle.
Et au cours de ce parcours, Nicolas Bocquet, est-ce que vous avez des moments ou des rencontres qui ont été comme des phares ?
Il y a un moment très important dans ce parcours intellectuel et spirituel, c'est les premières années à l'école normale supérieure et disons un moment de conversion, enfin un moment où une éducation catholique un peu vécue de manière formelle est devenue quelque chose de vivant. C'était au moment des journées mondiales de la jeunesse à Paris, encore une suite de hasards qui ont amené à une ouverture, à quelque chose, à la possibilité de trouver un fondement et une direction que je suis depuis lors et que je suis en même temps... de manière un peu zigzagante géographiquement, entre l'Europe centrale, les États-Unis, Rome, il y a toute une série de parcours dont la logique n'apparaît pas forcément au premier abord. Finalement, j'ai l'impression, en arrivant ici à Rome cet été, en prenant un peu la mesure de ce qu'il y a à faire ici, que toutes ces différentes expériences et ce qu'elles m'ont apporté à chaque fois se révèlent précieuses pour tout ce que j'ai à faire ici, qui est en fait assez complexe et très divers.
Alors, vous parlez beaucoup de, à la fois, l'enjeu spirituel et l'enjeu universitaire ou l'enjeu de recherche. Comment est-ce que cet enjeu spirituel, comment vous en parlez ?
Je me suis aperçu aux États-Unis que, par rapport à cette question de parler de la foi, à quel point, en étant français, catholique français, on intériorise les barrières entre le public et le privé et l'incongruité d'une évocation d'une simple foi en public ou dans un contexte universitaire, par exemple. C'est frappant de voir à quel point cette dimension-là est présente, naturelle et légitime sur les campus américains. Ce qui m'est intéressant, c'est que cette dimension spirituelle est d'emblée présente et légitime, quelle que soit l'attitude qu'on peut prendre par rapport à elle. Alors là, je suis aujourd'hui dans une situation complexe, puisque je suis à la tête, je suis diplomate, je représente l'État français, et je suis à la tête d'une institution qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui est un centre culturel français, qui est le centre culturel français de Rome, et en même temps, bien sûr, c'est le Centre Saint-Louis, fondé par Jacques Maritain en 1945, qui dépend de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, et dont la vocation a été, dès le départ, de représenter la pensée catholique à Rome et auprès du Vatican et des universités pontificales notamment. C'est un exercice qui peut ressembler parfois à un exercice d'équilibriste. C'est une sorte aussi de laboratoire de la laïcité positive dont on parle ces dernières années. Et pour moi, c'est un travail complexe mais assez enthousiasmant que d'arriver à un lieu qui représente toute la culture et toute la société française, mais où en même temps cette dimension spirituelle est présente, surtout dans ses dimensions intellectuelles ou artistiques naturellement, et un lieu où les uns et les autres se sentent bien et se sentent libres de venir écouter ou parler, regarder ce qui les intéresse et ce qui les nourrit.